va pouvoir échanger avec Hidoya, qui, je rappelle, est la productrice, et avec Anna Maria, qui est la scénariste du documentaire. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que quelqu'un veut déjà commencer? Oui. Alors.
Donc merci, je m'appelle Paola, je voulais vous remercier pour tout ce travail. Je voulais savoir si ce travail avait déjà été présenté à Équateur, et si oui, quelle en avait été la réception, et sinon, est-ce qu'il va se présenter? Donc merci beaucoup pour la question. Donc non, il n'a pas été présenté encore en Équateur, il n'a pas encore été présenté du tout. On va dire que cela, c'est pas encore la sortie officielle de ce film qui se passe ce soir. C'est plus une projection qu'on appelle le market screening, donc une projection de marché, on va dire, mais la distribution n'a pas encore commencé, donc il ne s'est pas vu en Équateur, il ne s'est pas vu non plus en Espagne, et on commence juste là, maintenant, du coup, à vous le montrer. Pourquoi on a fait ce film? On a fait ce film pour qu'il se voit et pour expliciter ce qu'était le lawfare. Et comme vous le voyez, c'est un film un peu particulier, un film qui dérange, qu'on vous montre ici. Et notre intention, c'est de faire comprendre quels sont les mécanismes qu'il y a derrière ce lawfare, faire passer des messages sur quel est le protocole qui est suivi en fait pour mener ces procès de lawfare. Donc on n'a pas encore d'idée très concrète de comment on va pouvoir distribuer ce film, comment on va faire l'accompagnement, mais en tout cas, ce qu'on voulait montrer, c'était vraiment le patron, en fait, le schéma de comment on mène un processus de lawfare. Et on pensait que le processus que suivaient Rafael Correa et la Revolución Ciudadana était assez emblématique. Donc là, ce qu'on a voulu faire dans ce film, c'est vraiment exposer un cas pour que chacun puisse finalement tirer des conclusions, ouvrir le débat autour de cette question du lawfare. Donc bien sûr, il y a des choses absolues hein, dans ce film. On vous montre des procès, on vous montre des sentences juridiques qui ont été prononcées. Mais là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir le débat également avec vous. Parce qu'il y a... Enfin, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'était des réalités, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances hein, derrière ce terme-là. Mais l'idée, c'était de vous aider à comprendre ce mécanisme.
Ce qui me surprend dans ce film, qui est très intéressant, c'est que le film se concentre sur ce lawfare et le problème de l'influence psychique qui a été l'élément qui a, semble-t-il, été repris pour finalement déterminer les jugements. Cependant, l'une des procureurs qui a été impliquée évoquait le fait que son travail de départ, celle qui est en situation d'être... peut-être définitivement radiée de l'ordre, évoque le fait qu'elle avait commencé un travail qui s'appuyait sur la notion de corruption. Et donc, je suppose qu'il devait y avoir des analyses et des recherches, des investigations financières qui avaient été faites. Il n'en est pas question. Est-ce que ces analyses et ces choses-là avaient trouvé quelque chose ou pas? Parce que... quand on entend parler un petit peu de ce qui se passe en Équateur et de la part de gens qui habitent là-bas, la référence qui est le plus souvent faite, c'est pas la notion d'influence psychique ou de trafic d'influence, c'est plutôt la notion de détournement de fonds, de choses comme ça. Donc quels sont les éléments? Est-ce que vous avez trouvé dans votre enquête des éléments concernant la notion de corruption, ou est-ce que c'était quelque chose qui était purement fabriqué?
Donc dans le cas, en effet, on parle de corruption, mais dans le jugement qui a été donné, en fait, il n'y avait aucune mention, aucune preuve qui déterminait cette corruption alléguée, aucune preuve non plus de détournement de fonds ou de pot de vin, comme il est évoqué avant. Et ce qui nous intéressait, en fait, c'était le fait qu'on faisait... référence à des concepts très éloignés, et notamment psychiques, avec cette influence psychique. Donc il y a un témoignage qui est assez intéressant sur ce cas, c'est celui de la juge Vera, qui parle du cas de Verónica Abad, donc la vice-présidente, qui est un cas assez récent, hein, puisqu'il date de 2025, c'était l'année dernière. Ce qui est assez intéressant, c'est que idéologiquement, c'est un cas qui est très éloigné en fait, de Rafael Correa. Ne sont pas du tout de la même mouvance politique, mais par contre, les méthodes sont assez similaires et elles sont en train de s'implanter en fait, dans le parquet général en Équateur. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en Équateur, les élections présidentielles élisent également la personne vice-présidente. Et donc le président Daniel Noboa ne pouvait pas destituer, ça se dit destituer du coup la vice-présidente et donc à user de mêmes mécanismes qui avaient servi pour discréditer Rafael Correa. Donc des mécanismes pour l'éloigner du pouvoir, il a été nommé en Israël, on a incarcéré aussi son fils. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le parquet en Équateur n'a pas besoin de preuves en fait, pour pouvoir mener ses persécutions politiques. Dans le cas de Rafael Correa, il y avait juste une seule preuve qui avait été invoquée, qui était celle du cahier qui est évoqué. C'est le cahier de la conseillère politique de Rafael Correa. Et on s'est rendu compte après que ce cahier n'avait jamais existé, il n'était même pas produit en fait, à l'époque. Et donc il s'agit en fait d'une fausse preuve, même si on ne le dit pas dans le documentaire. Je voulais savoir, ma question était très simple, je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous motivait, quel était le déclic qui vous avait amené à chercher toutes ces informations. Donc ce qui nous a motivé, c'est différents éléments. Idoya et moi, on a vécu toutes les deux dans différents pays d'Amérique latine. Et donc on a vécu des réalités qui étaient assez similaires. Moi, à l'époque, je faisais un documentaire en Colombie, un documentaire sur l'actuel président, Gustavo Petro. Et donc pendant ce projet, en fait, on commence à me parler du cas de Lofer dont est accusé Rafael Correa et de cette influence psychique. Et donc je suis pas politologue, je suis pas spécialiste en droit international, mais j'ai trouvé ça quand même assez surprenant qu'un président qui a été élu pendant 10 ans soit aujourd'hui poursuivi et menacé d'être emmené en prison. Et donc et voilà, j'ai trouvé que le cas était assez exceptionnel et en tant que narratrice, ça m'a un petit peu interpellée et c'était très éloigné de toute réalité que je connaissais. Je voulais plutôt m'intéresser à la production, qui vous appuie en fait dans cette production. Bien souvent, c'est plus facile de faire des histoires sur les vainqueurs, on va dire, que de l'histoire plutôt que les victimes. Et voilà, qui vous soutient? Donc en fait, il y a deux voies principales qui nous ont permis de pouvoir financer ce film. Une première, qui est des gens qui ont voulu collaborer avec nous. Et la deuxième, qui était à travers un crowdfunding, donc un petit peu plus d'une manière sociale, en essayant d'impliquer un petit peu les citoyens, les citoyennes. Puis il faut savoir que la production de ce film, elle a subi beaucoup de va-et-vient. Il y a eu beaucoup d'arrêts aussi hein, dans la production. Il faut savoir que la première fois qu'on a rencontré Rafael Correa, c'était en octobre 2021. Donc ça fait déjà maintenant plus de 3 ans, même plus de 5 ans. Au début, on voulait vraiment faire une chose très simple, assez petite, assez modeste. Et finalement, il s'est passé énormément de choses entre-temps. Donc bien sûr, il y a eu ce qui s'est passé à l'ambassade du Mexique à Quito. Il y a eu 2 élections aussi présidentielles. Et donc tout ça a mené à des paralysies, en fait, au cours de la production, puisque bien sûr, quand on est en période électorale, et bien les témoignages sont beaucoup plus difficiles à avoir parce que personne ne veut se positionner d'un côté ou de l'autre. Donc ça n'a pas du tout été un processus facile et ça a impliqué bien sûr des choses au niveau du budget. Par exemple, le cas en Israël, donc quand on apprend que la vice-présidente est en train de dénoncer un cas de Lofer alors qu'elle est aux antipodes en fait, du gouvernement de Corée, on se dit que c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe là-bas, mais Israël à ce moment-là est en guerre. Donc forcément, ça a des impacts, et pas que des impacts financiers. Hein. Voilà, donc ça n'a pas été simple. On a aussi beaucoup dû compter avec nos ressources personnelles, et aussi beaucoup avec l'aide des personnes exilées dans les différents pays qui nous ont appuyés au niveau de nos voyages, au niveau de différents frais. Donc je vous remercie beaucoup. Moi, j'ai vécu tout ça. Je suis équatorienne. J'attendais avec beaucoup d'impatience. Votre documentaire, j'en avais entendu parler et je me demandais quand on va pouvoir le voir. Donc je comprends que c'est la première fois que vous le montrez, en tout cas à cette échelle, et c'est une chance pour moi d'être ici. Je voulais vous dire que c'est ce qu'on vit aussi en Équateur jusqu'à aujourd'hui. On a subi 3 gouvernements néolibéraux de suite, des gouvernements de droite qui ont agi de la manière qui a été démontrée dans le documentaire. Et Correa, qui reste une personne dont les gens qui reste dans le cœur des gens encore en Équateur, on n'a rien pu rencontrer contre lui, on n'a rien pu savoir, avoir aucune preuve, vraiment rien de rien, alors que tous les autres, pour le coup, on en a trouvé des choses, des paradis fiscaux, de l'argent détourné. Et donc, voilà, je voulais vous dire un immense merci. J'espère qu'un changement pourra un jour advenir pour mon pays, même si je pense que c'est encore loin. Je voulais réitérer ces remerciements pour ce fabuleux documentaire. Moi, je suis une femme migrante équatorienne. J'ai assisté à tous ces changements qu'a pu permettre la révolution ciudadana, la révolution citoyenne, et à toute cette guerre politique, judiciaire, médiatique qui a été faite à l'encontre de ce mouvement. Mais ce que je voulais dire, c'est que le peuple équatorien résiste malgré tout. Dans le cadre des élections, ce mouvement a été suspendu il y a 8 jours. Et donc j'espère que ce documentaire pourra se voir en Équateur un jour. Moi, je suis venue depuis Paris pour pouvoir le voir, et j'espère vraiment qu'il pourra permettre de susciter un changement dans mon pays. Merci. Merci beaucoup pour être venue. Ça m'émeut beaucoup de vous savoir ici. Derrière ces 73 minutes qu'on vous a montrées, il y a beaucoup d'histoires personnelles de gens qui vivent aujourd'hui en dehors du pays. Et je trouve ça totalement bouleversant. On parle dans le film de ces dommages collatéraux horribles. Et ce qu'on voit dans différents témoignages qu'il y a dans le film, c'est que Bolívar, par exemple, cet entrepreneur ou la procureure générale, enfin voilà, différents témoignages, je vois que ces personnes, en fait, elles ne rompent pas. Elles continuent à être debout, et toute cette force, c'est vraiment bouleversant. Merci. Donc bonsoir, mon nom est Fernando, je viens du Pérou. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu tard, mais justement parce que je venais de là-bas. Ce que je ressens en voyant ce film, c'est avant tout de la peur, parce qu'au Pérou, il se passe des choses assez similaires. En fait, il manque juste l'influence psychique qui n'a pas encore été invoquée, mais sinon, c'est des processus qui sont assez similaires. Et donc voilà, je voulais savoir comment vous faites avec cette peur. Il y a quand même des risques que ce film soit interdit, en fait, à sa sortie en Équateur, tellement il confronte, en fait, le pouvoir actuel. Donc avant tout, merci beaucoup pour être venu, et c'est super que tu aies pu arriver. Sur la violence, en premier, sur la partie physique, on a pu en effet voir des choses assez dangereuses. Nous, dans nos voyages, notamment en Équateur, on a été soutenus par une équipe de sécurité, puisque, comme vous l'avez vu dans le documentaire, on voulait donner la voix, en fait, à différentes personnes de différents bords. On a voulu, on a demandé des interviews au parquet général, on a demandé des interviews à Lénine Moreno, mais ils nous ont répondu très aimablement que non, ils ne voulaient pas. Ne voulait pas répondre à nos questions. Et en fait, en étant en Équateur, dans nos différents mouvements, on se sentait quand même observé. On a voulu aussi interviewer l'ex-procureur général Diana Salazar, et en descendant du Cotopaxi. L'équipe du film, depuis l'Espagne, nous appelle pour dire que la procureure générale n'avait pas répondu à nos questions, à nos sollicitations, mais en tout cas, elle venait de publier une vidéo où, en fait, elle répondait aux 3 questions qu'on lui avait posées par mail sur un cas assez précis, puisqu'il avait été fermé depuis 3 ans, donc il n'y avait pas de raison pour lesquelles, en fait, cette vidéo soit publiée avant, mais elle le fait. Donc on était quand même assez inquiète. On ne pensait pas que ça pouvait arriver à de telles entournures. On était une production très petite, une production indépendante. Il n'y a pas de pouvoir particulièrement derrière ça, mais on sentait que ce film pouvait déranger. On voulait faire aussi l'interview que vous voyez avec la personne chargée du profilage criminel. Donc cette personne, elle vit encore en Équateur. Elle ne pouvait pas venir en Espagne parce qu'il était trop compliqué pour elle d'obtenir un visa pour venir. Et donc on décide avec la production de faire cette interview en Colombie. Donc la personne prend un avion, elle se retrouve à l'aéroport d'El Dorado à Bogota, et en fait, il ne la laisse pas sortir. Elle est détenue pour sécurité nationale, et en fait, bien sûr, la femme était très, très apeurée. Elle a été détenue pendant 12 heures dans une salle dans laquelle on ne lui donnait absolument aucune explication sur la situation, et finalement, on l'a ramenée dans un avion à Quito en pleine nuit. Et quand elle est arrivée à Quito, l'alerte pour sécurité nationale, en fait, avait complètement disparu. Donc voilà, on est arrivé vraiment, on ne pense pas forcément au thème de la sécurité, mais on est arrivé à des situations qui étaient complètement surréalistes. D'un moment à l'autre, on parle de la CIA, de sécurité nationale, alors que nous, on pensait juste faire un petit documentaire tout petit. Et donc forcément, on a été amené à penser à ces questions de sécurité. Elle n'a pas pu sortir de l'aéroport de Bogota, mais ils l'ont ramenée du coup à Quito. En théorie, normalement, c'était la responsabilité des autorités colombiennes, mais personne ne voulait être responsable de rien, et donc après plusieurs heures, ils ont décidé de la ramener à Quito.
Alors malheureusement, on aura bientôt plus de temps, donc je vous propose de continuer la discussion en bas, dans le hall. Merci beaucoup Ioya, merci beaucoup Ana Maria, merci Sophie pour la traduction.